Chapitre 5. À un bout de la salle, le frère et la sœur de M. Poitou parlaient à voix basse. Maurice Poitou avait 53 ans. Il était agressif et ne s'entendait avec personne. L'antipathie, cela ne s'explique pas. Je ne peux pas le voir, disait-il par exemple en parlant de quelqu'un. Un point, c'est tout. Mais, rétorquait-on, cet homme fait le bien depuis 20 ans autour de lui, il entretient sa vieille mère, il travaille pour cela 18 heures par jour. Je m'en fiche, moi, il ne m'est pas sympathique. Cela ne se raisonne pas. Il se faisait un point d'honneur de ne point revenir sur ses jugements. L'instinct ne trompe pas, disait-il. Je suis comme les enfants, je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Il était jaloux de l'indépendance de ses sentiments et de ses goûts. Lui offrait-on du thé, qu'il répondait en ces termes « Je n'aime pas le thé. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'y peux rien. » À tout moment, il semblait qu'une force supérieure à sa volonté l'empêchât d'agir. Quand on lui demandait pourquoi il n'était pas venu à un rendez-vous, il répondait « Je n'avais pas envie de venir. Ça a été plus fort que moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» Il vivait de l'argent que son frère lui donnait. Aussi lui parlait-il continuellement des devoirs que l'on se doit entre membres d'une même famille. Il revenait sans cesse sur les débuts du commerçant pour lui faire comprendre qu'ils étaient, au fond, semblables aux siens et que ce n'était que les ans et une orientation différente qui étaient cause de la différence de leurs conditions. « Te rappelles-tu, disait-il, quand nous étions enfants à Saint-Amarin, c'est parti de boules de neige, et celle que tu as reçue en plein nez ?» Au début de cette soirée, il avait adopté une attitude réservée, mais non sans projeter de bien laisser voir, au cours du repas, qu'il était le frère du commerçant. Quant à Blanche Poitou, la sœur des frères Poitou, elle était empanachée de plumes et revêtue d'une robe couverte de paillettes de mica noir. À quelques années près, elle avait le même âge qu'André. Elle était d'une taille et d'une corpulence au-dessus de la moyenne, ce qui ne la gênait en rien pour prendre continuellement des attitudes efféminées. Mariée avec un adjudant qui se trouvait en ce moment à Toulon, elle ne parlait presque pas dès qu'elle était entourée de visages inconnus, mais poussait continuellement des exclamations. « Ah ! Comment donc ? Curieux ! Vraiment ? Qui l'eût cru ?» revenait sans cesse sur ses lèvres. Il était une interjection répandue dans la région des Vosges que l'on dit lorsqu'un choc vous a meurtri pour « aïe » ou « oï », c'est « ouche ». Malgré ses efforts, elle n'avait pu se débarrasser de cette interjection bizarre. Aussi s'en servait-elle comme d'une originalité. Lui disait-on, par exemple, qu'un homme était tombé d'un tramway en marche, qu'elle s'écriait « ouche alors ». Elle tenait à la main un télégramme de son mari dans lequel ce dernier s'excusait de ne pouvoir assister au banquet et qu'elle n'osait donner à André. « Prends le télégramme, Maurice, tu le lui donneras, cela lui fera plaisir. » Mais Maurice ne tenait pas du tout à se charger de cette commission. Il lui répugnait de mettre en avant le mari de sa sœur. Il sentait vaguement que l'adjudant attendait quelques services de son frère. Comme il voulait être le seul à bénéficier des faveurs d'André Poitou, il dit « Ce n'est pas la peine. Si tu crois qu'il s'en souviendra, en un moment comme celui-ci, il m'a dit qu'il en a déjà reçu une centaine. Un télégramme, c'est un bout de papier comme les autres, après tout. D'ailleurs, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je ne veux pas. Alors je le lui donnerai après le dîner en le prenant à part. Je te dis que ce n'est pas la peine. » Il ne faut pas avoir l'air de courir derrière lui. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce télégramme ? Maurice Poitou prit le carré de papier et lut « Plus heureux que moi. Félicitations pour Légion d'honneur. Adjudant Ménard. » « Oh, ce n'est pas possible. Il est fou, ton mari. Qu'est-ce qu'il veut dire par « plus heureux que moi » ?»« Il ne l'a pas, lui, la Légion d'honneur. C'est ça, je crois. » Il n'avait qu'à envoyer ses félicitations. Cela ne se fait pas. Il n'a pas d'éducation, cet homme-là. Tu ne comprends pas, Maurice. Il suffit que quelqu'un obtienne une chose qu'il désire vraiment pour que celle-ci ait une grande valeur. Il est comme cela. C'est son caractère. Chacun a son caractère. C'est son caractère, si tu veux. Et puis, je n'ai pas d'explication à te donner. Moi, cela ne me plaît pas de donner ce télégramme. Il n'y a rien à faire contre cela. Tu sais comme je suis. Quand je ne veux pas faire une chose, on me donnerait tout l'or du monde que je ne la ferai pas. » Un homme d'aspect vénérable, qui venait de paraître sur le seuil de la galerie au bras d'un adolescent, l'interrompit. Il fit quelques pas, puis s'arrêta. Tendant sa canne à son fils, ajustant son monocle, il continua d'avancer. C'était M. Duménil, président du syndicat de la chaussure française, et son fils Jean. « Qui est ce monsieur important ?» demanda Lorieux à Jacques Soula. « Je suis comme toi, je n'en sais rien, absolument rien. » Demande à Aristide, il doit savoir, lui. Jacques Soula se tourna vers le bottier grec. « Qui est ce monsieur monoclé ?» Le grec se pencha alors vers Soula, mit sa main devant sa bouche et souffla. « C'est le président !»«
De quoi ?»«
De notre syndicat !»« Le président de notre syndicat !» M. Duménil s'était tout de suite dirigé vers André Poitou, qui, l'apercevant tout à coup, se débarrassa des convives qui l'entouraient pour aller à sa rencontre.
« Vous, mon président, » dit-il d'une voix étranglée.
« Comment allez-vous, Poitou? Je suis content, très content pour vous. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'embrasser un légionnaire, un vrai légionnaire, un légionnaire de mérite. » Et sur ces mots, se penchant à deux reprises sur l'épaule d'André Poitou, M. Dumézil fit le simulacre de l'embrasser. À ce moment, M. Baladis, qui avait laissé sur place le docteur et Jacques Soula, s'avança vers le président.
« Bonsoir, monsieur le président. »«
Bonsoir, monsieur, » fit Duménil, qui éprouva le besoin subit et irraisonné de ne pas sembler reconnaître le grec. « Je suis Aristide Baladis, de la rue Boissy-d'Anglas. »
« Ah oui, ah oui, je crois me souvenir. Vous êtes Baladis. »«
Oui, oui, je comprends. Maintenant, je me souviens de vous. »«
Ah oui, 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 monsieur Baladis, vous avez un nom facile à retenir. »«
Baladis, Balade, Rondeau, c'est grec, je suppose. Hein? C'est grec? C'est du pur grec, quoi. »«
Je suis français, monsieur le président, mais d'origine grecque. »
D'origine grecque. Baladis, c'est grec cela, il n'y a pas de doute. Vous êtes grec.
Ah ah, vous êtes grec?
Eh eh, moi, je suis français. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Nous sommes français, monsieur le président.
Est-ce vrai ce que vous dites? Est-ce vraiment vrai?
Je le suppose, monsieur le président.
Alors, monsieur Duménil se mit à rire. Eh bien, moi, monsieur Baladis, « je n'en sais rien. Je suis peut-être allemand. Connaît-on jamais ses origines ?»«
Que dites-vous, monsieur le président ?»
À ce moment, M. Loriot se pencha à l'oreille de Jacques Soula.
« Il se croit quelque chose, ce président. »«
Et moi, je dis ce qu'il me passe par la tête. Au fond, je serais allemand, qu'il n'y aurait rien d'étonnant. Ne voit-on pas des honnêtes gens se croire des coquins ?»
« Vous n'auriez pas cet esprit, président, j'en suis certain, vous êtes français jusqu'au bout des ongles. »«
Ah ça, monsieur Baladis, si vous parlez d'esprit, je suis un autre homme. »«
Oui, quand on parle d'esprit, je suis français et fier de l'être. »«
Mais, monsieur le président !»
interrompit de sa voix criarde Madame Wegener qui s'était approchée.
« Nous sommes tous fiers de l'être. » « Je suis Madame Wegener, la veuve d'un général français, le général Wegener. »
« Le général Wegener, le pacificateur ?»«
Oui, monsieur le président. » »«
Je vous félicite, madame. » »«
Et croyez-moi, monsieur le président, on a beau être la veuve du général Wegener, on traverse de durs moments, on connaît des heures difficiles. » »«
Nous en avons tous connu. » »«
Plus ou moins aussi. »
Plutôt plus que moins, je vous l'assure, Madame Wegener.
Je veux bien le croire, président, mais j'en doute.
L'accent faubourien que M. Duménil avait en parlant contrastait avec la solennité qu'il affectait et sa mise de vieux noble. Il avait une voix de basse grasseyante. Quand il disait « Je suis, madame, à vos pieds », L'image qui se présentait à son esprit faisait qu'il baissait encore la voix et que celle-ci semblait alors celle d'un juron d'alcoolique. Il était infatué de lui-même au point que cela en devenait maladif. Quand il sentait qu'il allait manquer une réponse, il changeait la conversation sans se soucier de l'impolitesse qu'il faisait à autrui. C'est ainsi que lorsque Madame Wegener avait rappelé ses durs moments, il s'était tourné brusquement vers Poitou et lui avait parlé d'autre chose. Quant à son fils Jean, c'était un jeune homme de 25 ans, vêtu avec élégance, qui était venu pour rigoler. Le père et le fils étaient d'ailleurs de mèche, car bien qu'il affectât des airs importants, le président était une sorte de pince sans rire inconscient. Il savait l'impression d'austérité qui se dégageait de lui et en usait comme d'un repoussoir à toutes les paroles qu'il prononçait, cela seulement quand son fils se trouvait à côté de lui, car s'il était seul, bien que ce fût exactement du même ton qu'il usa, il se prenait alors au sérieux. « Où as-tu mis ma canne, Jean ?»«
Au vestiaire. »
« Tu as un numéro, au moins ?»«
Naturellement. »«
Ne le perds pas, surtout. Cette canne m'a été donnée par l'empereur Daman, » ajouta-t-il, comme si son fils l'ignorait. Puis, se tournant vers André Poitou,
« C'est mon fils. Beau gars, hein ?
Voilà ce qu'il vous manque pour que votre bonheur soit parfait. Un cœur de père, c'est quelque chose. Les enfants, voyez-vous, Poitou, c'est toute la vie. » Sur un canapé de velours gris était assis un homme au visage énergique entre deux femmes à qui il parlait sans tourner la tête, les yeux fixés devant lui. C'était Robert Mourlon, directeur de la tannerie qui fournissait principalement en cuir la maison Poitou. Il avait, pour le monde qui l'entourait, un profond mépris. Homme d'action avant tout, il ne comprenait pas que l'on s'éternisât en vaine conversation. À l'endroit de Poitou, il observait une attitude bienveillante, non exempte de pitié. « Ce pauvre homme prend tout cela au sérieux, » pensait-il, en voyant le commerçant aller et venir d'un groupe à l'autre, se courber, se défendre avec modestie des compliments qu'on lui décernait. « Moi, à sa place, il y a longtemps que j'aurais envoyé tout cela promener. Il se laisse dominer, et ces gens-là réussissent. C'est ce qui est étonnant. »